Salut tout le monde, juste avant de commencer cet épisode, je voulais vous dire deux petites choses. Si vous avez l'habitude de les écouter, vous pouvez juste skip de quelques 30 secondes sur votre application de podcast. Sinon, je voulais vous dire deux choses. La première, c'est que j'ai récemment acheté un distributeur de verres à vin qui sont vraiment maxi stylés. Je dis pas ça parce que c'est moi qui les vends, je dis vraiment ça parce qu'ils sont très beaux. Moi, je les ai et je prends un énorme plaisir à déguster avec. Donc le nom du site, c'est betterwinetaste.com, betterwinetaste.com, tout collé, vous allez dessus. Les verres sont fabriqués en Allemagne, c'est des verres qui sont issus de l'entreprise Eich, donc c'est vraiment très très beau, franchement le buvant est très fin, les pieds sont magnifiques, enfin, je vous les recommande vraiment, c'est un plaisir. Il y a toute une gamme, il y a un verre un peu universel pour le rouge, un verre universel pour le blanc, et ensuite il y a des verres qui dépendent un peu plus des régions, Bordeaux, Bourgogne, etc. Enfin ça vous avez l'habitude, c'est vraiment très cool. Si vous commandez des dessus, vraiment c'est stylé. Et d'ailleurs on fait aussi des prix B2B et des offres B2B, donc si vous êtes vous-même producteur de vin ou si vous travaillez dans le milieu du vin et que vous souhaitez faire des coffrets, que vous souhaitez faire une collection de verres particuliers, que vous souhaitez les faire graver pour votre domaine, votre château, pour recevoir, bah voilà, dites-moi, envoyez-moi un message, c'est une super manière de soutenir ce podcast et en plus bah c'est bénef pour tout le monde. Donc mon adresse mail c'est vsurvin@gmail.com, vsurvin@gmail.com. Vous m'envoyez un message là-dessus et on fera quelque chose ensemble. Et sinon, betterwinetaste.com, et vous avez un code promo POTES qui vous donne droit, je crois, à la livraison gratuite. Donc POTES. Vous avez la livraison gratuite surtout. Donc, c'est plutôt cool pour vous. Deuxième point que je voulais vous dire. Donc ça, c'était le premier. Deuxième point, et après je vous laisse avec ce podcast, c'est que, comme vous le voyez, je m'investis de plus en plus dans le milieu du vin. J'ai vraiment envie de faire quelque chose dans le domaine, et donc du coup, je voudrais lancer une offre qui consiste à faire votre cave à vin. Si vous êtes dans le milieu du vin ou pas, et c'est un peu plus ou pas d'ailleurs, et que vous souhaitez que je fasse un peu votre cave à vin, que je m'occupe un peu de vous, qu'on définisse un peu vos goûts ensemble, que je vous transmette mes trouvailles et que je vous envoie tout ça. L'objectif, c'est de faire un système un peu tout en un qui vous permet d'avoir tout ce que vous voulez, que ce soit patrimonial pour transmettre ou alors pour vous faire plaisir, pour être avec les copains ou un peu des deux. Pareil, vous m'envoyez un mail vsurvin@gmail.com. Il n'y a pas encore de site web, donc désolé. Mais en tout cas, vous m'envoyez un mail et on pourra travailler ensemble avec grand plaisir. Donc voilà, vous savez tout. La première chose, c'est betterwinetaste.com. Avec le code promo POTE, vous avez la livraison gratuite et vous allez voir des verres vraiment de fous furieux. Et si vous êtes pro, n'hésitez pas à m'envoyer un mail et on voit ça ensemble. Et de l'autre côté, je serais ravi de m'occuper de vos caves à vin, de vous trouver les meilleurs vins possibles pour ce que vous voulez, de vous faire une belle offre sur mesure et tout ça. Donc envoyez-moi un message et on fait ça ensemble. Voilà, je vous laisse tranquille, bonne écoute, à bientôt. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du Winemaker Show dans lequel je suis parti à la rencontre de Laurent Delaunay de la maison Édouard Delaunay. Laurent a une histoire qui est absolument incroyable. Alors qu'il partait quasiment gagnant en Bourgogne, héritier d'un domaine incroyable, il est obligé de le céder puisqu'il fait face à des difficultés financières importantes. Il part se réinventer dans le sud de la France avec son épouse et rachète 20 ans plus tard cette maison à son précédent acquéreur. Bref, son histoire est absolument spectaculaire. Il fait des vins qui sont vraiment sublimes. On a eu la chance de les déguster. J'ai passé un excellent moment avec Laurent. Et je le remercie beaucoup pour tout le temps qu'il nous a accordé. On est resté vraiment longtemps ensemble. Je pense qu'on est arrivé vers 10h30 et on s'est quitté à 16h. Donc on a eu largement le temps de se comprendre, d'apprendre à se connaître. Bref, c'était un super moment ensemble. J'espère que ça se ressent dans ce podcast. Si c'est le cas, partagez-le autour de vous. J'espère vraiment qu'il vous plaira. Donc partagez-le à au moins 2 personnes autour de vous. Mettez-lui la note de 5 étoiles et foncez découvrir évidemment la maison Édouard Delaunay. D'ici là, je vous souhaite une superbe écoute. À bientôt. Salut. Bonjour Laurent.
Bonjour Antoine.
Merci beaucoup de m'accueillir ici aujourd'hui. On est juste à côté de Nuit-Saint-Georges.
On est à Nuit-Saint-Georges.
Oui. OK. Merci beaucoup de m'accueillir à Nuit-Saint-Georges.
C'est un grand plaisir.
Très plaisir d'être en Bourgogne, c'est très partagé. On en parlait un peu dans les épisodes d'avant, mais on n'est pas beaucoup venu en Bourgogne jusqu'à présent. On s'est beaucoup déplacé à Bordeaux, mais la Bourgogne, c'est encore assez neuf pour nous, donc ça nous fait vraiment plaisir de découvrir toutes ces spécificités, tous ces domaines, toutes ces maisons, etc. C'est
ultra d'autant plus que la journée est absolument magnifique. Ouais. Et que c'est vraiment la bonne saison en plus. C'est la plus belle saison pour découvrir la Bourgogne. C'est entre la fin des vinifications et la fin du mois d'octobre, le mois de novembre, qui est tout à fait emblématique et légendaire de la région. On va bientôt avoir dans 3 semaines la vente de vin des Hospices de Beaune, qui est un grand moment. Donc c'est tout à fait le bon moment.
Il faut qu'on revienne pour la vente des Hospices de Beaune.
Ça il faut, parce que c'est vraiment la grande période, les grandes journées, les trois glorieuses, comme on dit, du vignoble bourguignon.
Je suis en train de prendre mes rendez-vous pour tous les mois à venir, la vente des Hospices de Beaune. Dans les autres épisodes, on a pas parlé de la Burgundy Week aussi à Londres.
Oui, donc début janvier.
Exactement. Donc
je peux me permettre, il y a un troisième épisode, parfait, moins connu, mais qui me tient particulièrement à cœur, qui est la vente des Hospices de nuit Saint-Georges. Beaucoup moins connu que les Hospices de Beaune, mais à redécouvrir, le même principe que les Hospices de Beaune, exactement la même chose, sauf que ça a lieu un petit peu plus tard dans la saison, ça a lieu au mois de mars, le troisième dimanche de mars, et c'est le même principe, ce sont les vins qui appartiennent au domaine des Hospices de Nuit Saint-Georges, 12 hectares de Nuit Saint-Georges et de Nuit Saint-Georges premier cru, absolument superbe. Plus confidentiel parce que c'est plus petit et un petit peu éclipsé peut-être par la grande sœur de Beaune, mais nous en tant que nuitons, ça nous tient particulièrement à cœur.
Eh ben c'est noté. Du coup j'ai mes rendez-vous pour novembre, janvier, mars, donc
voilà. Donc ça va. On sera ravis de te recevoir à nouveau.
Ça marche. C'est noté. Attention. Rentrons dans le vif du sujet. Est-ce que tu peux commencer par te présenter?
Alors, je suis Laurent Delaunay, je suis le président et le fondateur de Badet Clément et de... Alors, pas le président et le fondateur, mais je vous raconterai l'histoire qui est un petit peu particulière, le propriétaire aussi de Édouard Delaunay, ici en Bourgogne.
Super, et ben merci beaucoup de nous accueillir. On va creuser un petit peu là-dessus. Comment est-ce que t'en es venu au monde du vin?
Alors, c'est génétique. J'avais ça, je suis né avec un patrimoine génétique dans lequel il y avait le vin. J'avais certainement un chromosome supplémentaire. C'est familial, en fait. Chez moi, je suis le descendant de 5 générations de producteurs et négociants bourguignons. Et j'ai été élevé dans ce milieu depuis tout petit. Mes souvenirs les plus anciens, les plus lointains tournent autour du vin. Et donc, c'est toute mon enfance. Comme beaucoup de garçons, j'ai voulu être pompier, puis pilote de chasse, et puis aux alentours de 14 ans à peu près, d'ailleurs, j'étais daltonien, donc pilote de chasse, c'était mal parti, mais autour de 14-15 ans, j'ai commencé à m'intéresser beaucoup à la vigne, au vin, à la cave. On avait vraiment une sorte de culture familiale qui tournait complètement autour de ça. Mes parents habitaient au-dessus de la cave. Je jouais dans la cave depuis tout petit, j'ai fait mes premières bêtises dans une cuverie et dans une cave. Et puis, tous les dimanches, depuis l'âge même... Alors, c'est peut-être plus trop politiquement correct de dire ça à notre époque, mais à partir de 10-11 ans, tous les dimanches, à la fin du repas dominical, mon père allait chercher une bouteille et me faisait sentir, me faisait déguster un petit peu plus tard, mais déjà au moins sentir à cet âge-là. Et puis, c'était tout à fait ludique. On nous proposait, à mes sœurs et à moi, d'essayer d'identifier les parfums qu'on sentait, et puis est-ce que c'était vieux, est-ce que c'était pas vieux. Et puis, on s'est initié à la dégustation des vins de Bourgogne et la dégustation à l'aveugle. C'est devenu une sorte de jeu. Plus ça allait, plus il fallait essayer de trouver le vin en question. Et c'était une énigme qu'on attendait avec presque impatience tous les dimanches.
Non, je te rassure, t'es clairement pas la pire personne que j'ai pu interviewer dans ce podcast, puisqu'il y en a un que je ne citerai pas, mais pour les fidèles auditeurs, vous saurez qui c'est qui finissait les verres de Porto de ses parents.
Oh, j'en ai fait d'autres aussi.
À 7 ou 8 ans, donc donc ça va, 10 ans.
J'en ai fait d'autres aussi.
C'est très correct. Il devait y avoir une petite compétition entre tes frères et sœurs à ce moment-là, le dimanche.
Alors, j'ai 2 sœurs. Oui, il y avait une sorte de... en fait, c'était pas vraiment une compétition. Chacun s'exprimait. Mmh. Et puis, alors, j'avais une sœur qui était un peu allergique au vin. Alors, je pense que, d'abord, c'est la dernière. Elle a complètement changé depuis. Elle travaille ici avec nous maintenant. Mais elle a pas bu une seule goutte de vin jusqu'à l'âge de 18-19 ans.
Ah, oui.
Et je pense que c'était plus une sorte de réaction par rapport justement au milieu familial. C'était une façon certainement de se positionner de façon un petit peu différente.
Mmh. Ouais, c'est bon. J'ai l'impression qu'il y a un peu les deux parcours, mais à la fin, ça se recroise toujours un peu. À un moment donné, on était avec Francine Picard dans une précédente interview, et c'est un peu pareil en fait. Elle a un peu rejeté le monde du vin pendant très longtemps, et pareil.
Elle a fini par y venir.
Ouais, exactement. Vers les. De quelle façon? Exactement. Donc c'est toujours assez incroyable comme parcours. Donc toi, t'as toujours eu cette prégnance un peu du monde du vin. À quel moment est-ce que tu t'es dit, est-ce que t'as eu un déclic en te disant, bon, tout ça c'est sympa, maintenant j'ai vraiment envie d'en faire mon métier, ou est-ce que t'as un peu glissé petit à petit?
C'est venu tout à fait progressivement. En fait, moi, de mon côté, ma branche familiale, mon père en particulier, c'était la partie négoce. C'est-à-dire qu'on avait dans la famille à la fois des vignes et puis une partie négociant éleveur. Mon père s'occupait de la maison de négoce. Donc en fait, c'était presque plus le vin. L'œnologie, la vinification, l'élevage, etc. Et justement, quand j'avais... en fait, c'est vraiment vers l'âge de 14 ans à peu près, et c'était certainement aussi une sorte de réaction par rapport au milieu familial, je me suis découvert beaucoup d'intérêt pour la viticulture, pour la vigne. J'avais toujours eu un attrait particulier pour le milieu agricole. Quand j'étais petit, à l'étang Vergy, qui est notre village dans les Hautes-Côtes-de-Nuit, il y avait une ferme en face de chez moi, et j'ai passé mon enfance, à partir de l'âge de 7-8 ans, à aller à la ferme. Il y avait des vaches, aller faire les moissons, aller ramasser les bottes de paille, etc., etc. C'était absolument mon terrain de jeu. Donc j'avais une attirance un peu spécifique pour l'agriculture et pour le milieu agricole. Et dans la famille, j'avais un de mes oncles qui, lui, était viticulteur, qui habitait dans le village d'à côté. Et assez naturellement, c'est plus ça qui m'a passionné en premier. Vers l'âge de 14-15 ans, effectivement, j'ai commencé à m'intéresser vraiment à la viticulture, à ces traditions viticoles, ce côté agricole. Et en fait, j'étais au lycée, mais je rentrais le vendredi soir et le samedi matin, à 7h, j'allais même presque réveiller mon oncle, parfois, parce que je voulais aller l'aider à tailler, à piocher la vigne. J'avais vraiment envie d'être en contact avec la nature, avec le sol. C'est quelque chose qui me plaisait beaucoup. Et donc, plus tard, après le bac, j'ai fait des études de viticulture œnologie. J'ai fait un BTS de viticulture œnologie. Je suis arrivé plus par le côté viticole, mais le côté œnologique commençait à m'intéresser de plus en plus. Et puis, en fait, plus j'avançais, plus je me suis rendu compte que j'avais besoin d'en savoir un petit peu plus sur la vinification, sur le vin, etc. Puis plus j'avançais, plus je voyais aussi que l'horizon se dégageait un petit peu devant moi, et que un jour ou l'autre il allait falloir que je commence à travailler. Ça m'intéressait de plus en plus, ça me passionnait, et puis il allait falloir que je rejoigne mon père, mon oncle, etc. Et donc je me suis orienté de plus en plus vers l'œnologie. J'ai fait, après mon BTS viticulture œnologie, j'ai fait mon diplôme d'œnologue à Dijon. C'est là où j'ai rencontré ma femme, Catherine, qui est œnologue aussi, comme moi, qui est originaire du Beaujolais, d'une famille de viticulteurs. Et puis, en fait, alors, je veux pas trop, comment dirais-je, je sais pas l'intensité qu'il faut donner à ce dont je parle, parce que je pourrais en parler pendant des heures. Le format est peut-être un peu limité.
Non, on a le temps. Donc,
d'accord.
Enfin, moi, j'ai le temps.
Mais à cette époque-là, j'avais un cousin qui s'appelle Édouard, qui se destinait, lui, à reprendre la partie commerciale de la maison de négoce. Et tout à fait naturellement, Édouard avait un an ou deux de plus que moi, tout à fait naturellement, il y avait une sorte de partage naturel qui s'était fait entre nous, où on avait envie de travailler ensemble et de devenir la génération suivante, la cinquième génération. Et Édouard devait reprendre donc la partie commerciale, et moi la partie technique, œnologique, etc. C'est à ça que je me destinais. J'ai fait entre-temps, je suis parti aux États-Unis, pendant un an en Californie, où j'ai travaillé dans la Napa Valley comme assistant winemaker. J'ai suivi des études à l'université de Davis qui ont complété en fait tout mon cursus. Et puis j'ai fait mon service militaire, et au moment où je suis revenu, Édouard, qui avait donc un an ou deux de plus que moi, avait commencé lui à travailler avec mon père et mon oncle. Et puis finalement, il s'est rendu compte après un an ou deux que c'était pas finalement ce dont il avait rêvé, et qu'il avait envie de partir pour d'autres horizons. Et donc je me suis trouvé tout à coup finalement tout seul devant le vide, en quelque sorte. Et je me suis dit, ah, donc là, j'ai le savoir-faire, enfin, j'ai appris la viticulture, j'ai appris l'œnologie, mais maintenant, Laurent, il va falloir que tu diriges une maison de vin, et ça, c'est pas aussi facile que ça. Donc, il me manquait le côté économique, commercial, etc. Et donc, J'ai regardé ce que je pouvais faire. C'était justement à peu près au moment de mon service militaire. J'avais un petit peu de temps devant moi. J'ai eu la chance de pouvoir, pendant mon service militaire, préparer des concours, etc. Et en fait, j'ai intégré à la sortie de mon service militaire l'ESSEC. Mmh. Donc j'ai pu faire une belle école de commerce pour terminer mon cursus viticulture, œnologie, etc. Qui m'a apporté, une formation au moins.
Toute la structure qu'il fallait.
Commerciale, économique, marketing, etc. Et j'ai rejoint mon père tout de suite après. Après, en sortant, on était fin 89, donc je me destinais assez naturellement à prendre la suite, à être la génération suivante. J'avais un certain nombre d'idées, de choses que je voulais faire, que je voulais améliorer. J'étais vraiment dans une démarche, justement, en revenant notamment des États-Unis, où j'avais vu à quel point les Américains étaient tout le temps en train... À l'époque, c'était un vignoble, la Californie, qui était encore en développement, en émergence, et à quel point, en fait, ils étaient toujours dans une logique d'amélioration permanente, d'expérimentation et tout, alors qu'à cette époque-là, en Bourgogne, on avait un peu de tendance souvent à s'endormir sur nos lauriers. Et donc, je suis revenu un peu avec cette mentalité-là, et donc je voyais déjà un certain nombre de petites choses à améliorer, et je me voyais donc prendre la suite. Et puis, c'est ce que j'ai commencé à faire, et puis les choses se sont pas passées tout à fait comme je pensais, parce que, en fait, je me suis rendu compte en commençant à travailler avec mon père, que certaines de ses décisions, de ses réactions me paraissaient pas toujours rationnel. Mmh. Et puis en fait, je me suis rendu compte qu'il y avait quelques problèmes, et finalement en en parlant en famille, il a été consulté et on s'est rendu compte qu'il avait la maladie d'Alzheimer. C'était les tout débuts d'ailleurs du moment où on commençait à identifier cette maladie, qui était encore assez mal connue. On était en 90-91. Et là, bon, j'avais pas tout à fait 25 ans. Le vide a été encore plus important devant moi, parce que je me suis dit, je vais pas pouvoir compter sur mon père aussi longtemps que j'avais prévu. La transition va devoir être beaucoup plus rapide que prévu, parce que sa situation, son état se dégradait très rapidement. Et donc, on a vécu quelques moments difficiles. C'était une période aussi où c'était compliqué d'un point de vue économique. C'était la période de la première guerre du Golfe. À cette époque-là, les vins de Bourgogne étaient parfois encore un peu compliqués à vendre. C'était pas toujours aussi facile que ça. Quand tout allait bien, ça allait bien. Quand la situation économique était bonne, il y avait une demande et il y avait pas de problème. Dès que ça se tendait un petit peu, ça devenait beaucoup plus compliqué. Et on était exactement dans ce type de phase. Et puis donc, en fait, voilà, à pas tout à fait 25 ans, et bien pendant 2 ou 3 ans, j'ai tout fait pour essayer de sauver la maison. Et au bout de 2 ou 3 ans, il a fallu se rendre à l'évidence que j'allais pas y arriver tout seul. Donc il a fallu que je m'occupe, après en avoir parlé avec le reste de la famille, de trouver un acquéreur, parce qu'il fallait la céder, mmh. en fait. Et donc on a trouvé ça, et on a trouvé un acquéreur, et on a vendu la maison familiale après 5 générations, une décision pas facile à prendre, en 93, début 93. Et donc ma femme et moi, Catherine m'avait rejoint déjà depuis quelques temps pour m'aider, justement. On a accompagné la transition. Ça a duré encore à peu près 2 ans, 2 ans et demi, où on a amené le bébé dans le nouveau groupe, en fait. J'ai dirigé effectivement ce qui était devenu une filiale dans un groupe, mais qui restait la maison de Launay. Et puis au bout de 2 ans, 2 ans et demi, une fois que cette transition était bien assurée, qu'on avait assuré notre devoir en quelque sorte, avec Catherine, on s'est dit, c'est pas tout à fait ce qu'on veut faire. Nous, ce qu'on veut, c'est être indépendant. On veut faire nos propres vins, on a nos propres idées. Et en fait, on a donc démissionné et on a décidé de repartir. Et on est reparti complètement ailleurs et différemment, parce que à la fois, on avait vécu quelques années pas faciles en Bourgogne, on avait un petit peu envie de tourner la page et de changer d'air. D'autre part, on n'avait pas de moyens, on n'avait pas d'argent, on était que tous les deux et avec notre bonne volonté, mais c'est à peu près tout. La Bourgogne était une région qui était déjà à l'époque chère, donc recommencer quelque chose en Bourgogne, c'était un petit peu hors de notre portée à ce moment-là. Et puis, on voyait ce qui se passait. Moi, j'avais toujours cette expérience américaine derrière moi. Et en fait, on a été séduit et tout à fait intéressé par ce qui se passait dans le Languedoc. à cette époque. Et on était vraiment au début, au milieu d'une période de transformation complète du vignoble languedocien, qui évoluait d'un vignoble produisant des gros volumes de vins plutôt entrée de gamme vers un vignoble beaucoup plus qualitatif, dans lequel on avait commencé à planter, à cultiver beaucoup de cépages, ce qu'on appelle un peu dans notre jargon les cépages internationaux, qui sont tous d'origine française, mais en fait voilà, le Merlot, le Cabernet Sauvignon, le Chardonnay, le Sauvignon Blanc, la Syrah, c'était d'ailleurs un des éléments qui était assez fascinant pour nous, qui étions deux jeunes œnologues bourguignons venant d'une région où on cultive essentiellement deux cépages, allez quatre si je rajoute la Ligotée et un peu de Gamay, mais d'arriver dans une région où on pouvait jouer avec une multitude de cépages, etc. Et donc on a redémarré dans le Languedoc à une échelle extraordinairement petite. On n'avait pas d'argent, pas de cave, pas de cuverie. On a juste réussi à convaincre quelques viticulteurs locaux de nous laisser vinifier un peu de vin à notre idée dans leur cave, en s'engageant à leur prendre le vin en question. Et puis on a redémarré comme ça, donc à toute petite échelle. Catherine s'occupant plus de la partie justement technique, vinification, ensuite les mises en bouteille, etc. Et moi m'occupant plus de la partie marketing, commercial, etc. Et ça a été une période absolument fabuleuse. On était extrêmement libres, on n'était que tous les deux. C'était, comment dire, on vivait d'amour et d'eau fraîche et d'air pur. Un petit peu de vente de bouteilles quand même, mais très très petit. Et ça a commencé à toute petite échelle. On a eu la chance d'avoir un ami qui était un importateur américain, qui était un ami de la famille depuis assez longtemps, qui a cru à notre projet, qui nous a aidés, qui nous a ouvert le marché américain, qui a commencé à importer nos produits aux États-Unis. Ça nous a mis le pied à l'étrier et on a commencé comme ça, en vendant un peu de vin aux États-Unis la première année. Puis la deuxième année, j'ai pris ma voiture, je suis parti un peu en Angleterre, un peu en Allemagne, et on a commencé à avoir quelques petites commandes. Puis les choses se sont développées comme ça. On a eu également la chance que nos vins correspondaient tout à fait à l'air du temps de cette époque-là. Donc ce qu'on a créé à cette époque-là, c'est notre marque, qui reste notre marque principale, qui s'appelle Les Jamelles, qui était une marque et qui est toujours une marque de vins de cépage, essentiellement des cépages purs. On a commencé avec une gamme assez courte de 3 ou 4 cépages, et maintenant on doit travailler, je crois, avec 23 cépages différents. Et puis, enfin voilà, on a eu des très bons résultats dans la presse. Les gens trouvaient que ça correspondait vraiment aux attentes du marché et du marché international, notamment vis-à-vis des vins français. C'est une sorte d'approche des vins français un petit peu décomplexée. Mmh. Et c'est vrai que on est dans un pays où on a une telle culture du vin. On se rend pas compte parfois à quel point parfois elle peut être un peu difficile à comprendre, et elle peut déconcerter un peu les consommateurs internationaux. C'est tellement complexe, entre nos terroirs, nos régions, notre géographie, nos châteaux, nos domaines, nos appellations, nos premiers crus, nos crus classés. C'est extraordinairement complexe. Et l'intérêt des vins de cépage, c'est que ça simplifiait, ça décomplexait un petit peu la chose, quoi. Et donc, on a eu beaucoup de succès dès le départ. Ça a très vite décollé. Et de 95 années où on a démarré à 2003, ben on a fait que ça. On s'est développé dans le Languedoc. Un petit peu plus tard, on a pu racheter une première cuverie, puis un petit peu de vigne, et puis etc. On a racheté d'autres maisons, et les choses ont continué comme ça. On est revenu en Bourgogne en 2003, justement, parce que un ami de mon père, qui possédait une toute petite société, qui distribuait des vins de domaines familiaux et indépendants bourguignons, qui aidaient un certain nombre de viticulteurs qui n'ont pas de force de vente à commercialiser leur vin, toute petite échelle, prenait sa retraite et m'a contacté pour me dire « Tiens, je voudrais céder mon affaire, j'ai pensé à vous. » Et ça m'a intéressé parce que ça me permettait de revenir en Bourgogne, justement, avec une activité un petit peu différente, mais de reprendre un peu pied en Bourgogne. Mmh. Donc ça, c'était en 2003. Et de 2003 il y a quelques années, aux années récentes, donc on a développé à la fois la partie bourguignonne, mais au travers de la distribution de vins de domaine. Donc ça nous a permis de rentrer en contact, de travailler au quotidien avec une multitude de domaines bourguignons. Ça nous a permis de vraiment bien reprendre pied en Bourgogne et de garder en fait le contact. On reste, et je reste bourguignon d'origine, de cœur, d'âme. Mais on avait toujours quand même un petit peu une petite frustration quelque part. On a développé le Languedoc en même temps, qui a continué à bien se développer. On est maintenant certainement dans les 5 premiers opérateurs du Languedoc. Dans le Languedoc, à l'heure actuelle, on a 3 cuveries, on a 140 hectares de vignes, et une distribution dans beaucoup de pays. Ça marche très très bien, ça reste extrêmement important pour nous. J'avais toujours cette petite frustration quelque part, au cours des années, avec le temps qui passait, de ne pas faire mes propres vins en Bourgogne. Donc au cours des 10 dernières années à peu près, j'ai regardé différentes possibilités, différentes opportunités, éventuellement racheter un petit peu de vignes. J'ai eu une ou deux opportunités de racheter peut-être des petites maisons, des choses comme ça. C'était jamais exactement ce qui me correspondait. Et puis, une coïncidence absolument incroyable, en 2016, j'ai croisé un petit peu par hasard les gens à qui nous avions, mon père et moi, vendu la maison familiale de Launay en 93. Et puis, en buvant un café et en leur demandant si c'était stratégique pour eux et si éventuellement ils accepteraient un jour peut-être de me la revendre, ils ont dit faites-nous une proposition et puis on étudiera ça. Et donc j'ai bien travaillé mon sujet, j'ai fait une proposition et j'ai fini par racheter en 2017 la maison familiale 24 ans après l'avoir cédée. Donc une sorte de retour aux sources, une boucle qui s'est rebouclée de façon pas du tout prévue à l'origine. C'est pas une stratégie, c'est certainement pas une revanche. Parce que j'avais toujours gardé d'excellents contacts avec eux, mais c'est plutôt une sorte de signe de la providence, des étoiles quelque part, une bonne étoile et un alignement de planètes justement, qui ont fait que ça a été possible. Donc voilà, ça c'était 2017, rachat de la maison Édouard Delaunay, avec le projet de la relancer, de la rétablir vraiment dans l'élite bourguignonne.
Merci beaucoup pour ce tour d'horizon. Il y a plein d'éléments que j'ai envie de creuser un peu et de voir. Mais bon, déjà, bravo évidemment pour ce parcours. En fait, il y a un truc qui est marrant. Après, je te poserai quelques questions, mais dans ton histoire, il y a quand même quelque chose qui est assez marrant, c'est que en soi, ça a été super dur. Je pense. Enfin, on va en reparler un peu. Mais
il y a eu des moments plus difficiles que d'autres. Mais en fait, il y a eu des très beaux moments aussi.
Quand on regarde le truc tu hérites d'une maison bourguignonne en soi, on peut se dire, mais en fait, c'est un nanti entre guillemets. Je fais des signes entre guillemets, machin. C'est un nanti. Il hérite, machin. Alors qu'en fait, pas du tout. Et tu vois, tu le dis, t'es reparti de rien. Et t'as dû tout refaire. Et moi, je suis vraiment super admiratif de ça parce que on pourra en reparler. Mais je suis entrepreneur aussi, machin. Et c'est vraiment quelque chose qui me passionne. C'est les gens qui repartent de rien et qui se disent, ok, c'est pas grave. On va aller dans le sud. On va voir ce qui se passe. On va faire un peu de vin. Enfin, vraiment, je trouve ça super cool. Du coup, pour creuser un peu là-dedans, moi j'ai envie de comprendre comment ça se passe ces premiers pas dans le Languedoc déjà. Donc t'arrives, tu dis on convainc quelques vignerons de nous filer un peu de jus ou quelques raisins. Comment tu fais? T'arrives, tu toques à la porte de chez eux, tu dis bonjour, voilà, on a vu que vous aviez des vignes.
Ça a été ce que j'ai raconté était un tout petit peu caricatural. C'est pas été aussi simple que ça. C'est-à-dire que à la fois on avait quelques contacts, des amis d'études, des amis de la famille, etc., etc. Mon père s'était toujours intéressé à cette région-là. Il avait pas mal de connaissances dans cette région-là. Donc on a activé un peu les contacts que l'on avait. Ça s'est fait donc beaucoup. On est dans un métier où le relationnel. Et ce qui est le plus important, en fait, c'est on peut rien faire dans ce métier sans le relationnel. C'est un métier de réseau, que ce soit en amont pour les approvisionnements, que ce soit en aval pour la commercialisation. C'est s'il y a une chose à comprendre, je pense que c'est vraiment ça. On a été aidé par pas mal de gens qui nous ont trouvé jeunes et sympathiques et qui nous ont présenté à d'autres, etc., etc. Puis on a eu une autre approche à côté de ça, qui était une approche un petit peu plus systématique, avec simplement une carte géologique de la région, en se disant les chardonnays, si on veut faire du chardonnay, ça donne des meilleurs résultats sur des terroirs argilo-calcaires. Où est-ce qu'il y a des terroirs argilo-calcaires? Puis il vaut peut-être mieux monter un petit peu en altitude pour avoir un peu de fraîcheur. Donc où est-ce qu'il y a des terroirs argilo-calcaires un petit peu en en altitude, et on arrive à certains endroits, à Limoux, sur les contreforts des Cévennes, etc., etc. Et puis là, après, alors, en partie, parfois, et souvent d'ailleurs recommandé par les uns et par les autres, en expliquant qu'on s'intéressait spécifiquement à certains terroirs, mais aussi parfois en se promenant en voiture dans la région, puis en voyant une belle vigne de Chardonnay bien faite, et en s'arrêtant sur le bord de la parcelle et en parlant avec les viticulteurs voisins. Tiens, à qui elle appartient cette parcelle? Ben, elle appartient à un tel dans tel village. Donc on va dans le village, on essaye de trouver la personne, on toque à la porte, on se présente. Et donc c'était vraiment un petit peu partir à l'aventure, quoi. Et il y avait un côté très un peu bohème qui était très très sympa. Mais en fait, au-delà de tout ça, on a été formidablement bien accueillis, parce que je pense qu'on a dû paraître sympathique. On était deux petits jeunes œnologues, un petit couple, donc il y avait un petit côté peut-être un peu attendrissant. Mais au-delà de ça, le Languedoc-Roussillon à ce moment-là était une région qui était en pleine transformation. Et moi, j'ai toujours été frappé, parce qu'on décrit parfois cette région comme étant une région un petit peu rude, avec des personnes qui ont des fortes personnalités. Tout ça, c'est vrai. Mais ils ont un sens de l'accueil absolument incroyable.
De l'hospitalité, l'art de vivre.
Hospitalité, ouais, et une ouverture. En fait, ils étaient demandeurs, ils cherchaient des partenariats avec des gens qui pouvaient apporter des savoir-faire venant d'autres régions. Quand vous commencez à planter des cépages qui sont pas les cépages originaires de votre région, bah, c'est mieux de vous faire un petit peu aider sur des gens qui savent travailler ces cépages-là. Alors, on avait pas tant d'expérience que ça. On en avait une familiale vraiment en Chardonnay, en Pinot Noir. Moi, en Californie, j'avais beaucoup travaillé sur les Cabernet Sauvignon, sur les Merlot, sur les Syrah aussi. Donc voilà, on avait un petit peu ça à notre actif. Mais on a été extrêmement bien accueillis. Il y avait une attente, pratiquement. Et on arrivait au moment où il y avait une attente. Et je dois dire qu'il y a beaucoup de partenariats qu'on a mis en place à cette époque-là qui existent toujours. À partir du moment où on respecte les gens, où on respecte leur façon de travailler, leur façon de vivre, leur culture, leur terroir, ça se passe très bien. C'est assez incroyable tout ce qui s'est passé dans le Languedoc depuis 25-30 ans. D'ailleurs, donc il y a eu toute cette vague de plantations de cépages qui sont souvent arrivées d'ailleurs. Il y a eu effectivement, dans les années 90, cet accueil de gens qui venaient presque des quatre coins du monde. C'est l'époque à laquelle sont arrivés aussi des Australiens. Mmh. Il y a pas mal d'Australiens qui ont investi, qui se sont intéressés au Languedoc. Les Californiens, on se rappelle des histoires Gallo, Mondavi, etc., qui avaient tenté de s'implanter. Tous les Français se sont intéressés au Languedoc à cette époque-là. Les gens de la vallée de la Loire, des Bordelais, des Bourguignons. Je pense que tout le monde a bénéficié à plus ou moins du même accueil. Tout le monde a peut-être pas compris, en fait, que il fallait s'adapter justement à la culture locale. Nous, un des points qu'on avait, c'est qu'on était petits, jeunes, sans idées préconçues, et on n'arrivait pas là en se disant voilà, on vient d'une grande région et on a la science infuse.
On va vous apprendre.
Et on va vous apprendre comment faire, et ce qu'on sait faire en Bourgogne, c'est exactement comme ça qu'il faut faire dans le Languedoc. Pas du tout. Au contraire, on se sentait peut-être une toute petite illégitimité. Et justement, on avait vraiment besoin d'essayer de prendre pied, de s'implanter dans la culture locale. Et donc, on était très à l'écoute. Et d'ailleurs, c'est assez intéressant de voir que il y a eu cette espèce de boom dans les années 90. C'est loin, mais il y a beaucoup d'opérateurs justement de grandes régions françaises ou internationaux qui ont fini par repartir de la région, qui sont pas restés, qui ont essayé pendant 5 ans, pendant 10 ans, et qui ont fini par repartir. Et si je regarde peut-être un peu le point commun, c'est que c'est des gens justement qui avaient une approche peut-être un petit peu trop sur d'eux, sur d'elles, avec un peu trop peut-être d'arrogance, et qui ont pas accepté de se plier. C'est même pas de se plier, mais en fait de prendre position dans la culture locale, à tout point de vue, d'un point de vue purement culturel, mais aussi c'est un grand terroir viticole. C'est une multitude de grands terroirs viticoles. C'est la plus vieille région de production en France. La Narbonnaise, ça date de l'époque des Romains, en fait. Donc, il y a un savoir-faire dans cette région. Il y a une réalité des terroirs. C'est une région qui est absolument immense, avec une multitude de terroirs différentes. Et tout ça, finalement, nous, on s'est toujours dit, personne ne connaît mieux les terroirs que les viticulteurs locaux. Donc, il faut vraiment qu'on ait un partenariat plus poussé avec eux pour arriver à faire quelque chose. Nous, ce qu'on savait surtout faire, c'était faire du vin, vinifier et commercialiser. Mais pour toute la partie viticulture, implantation locale, connaissance des spécificités locales, précises, intrinsèques des vignobles, les viticulteurs locaux les connaissaient beaucoup mieux que nous. Donc on a tout de suite eu en fait cette relation. Et puis il y avait un autre facteur aussi, c'est qu'on était tout petit. Donc les enjeux stratégiques étaient peut-être moins importants. Donc quand il y a eu des périodes un petit peu plus difficiles, je me souviens en 98 ou 99, le marché, c'était une sorte de bulle qui s'était développée, puis à un moment qui a explosé et qui s'est complètement refermé. Je me rappelle les Chardonnays les cours avaient doublé en 2 ou 3 ans, puis ça s'est été redivisé par 2 en 1 an. Il y a beaucoup d'opérateurs qui ont trouvé cette période difficile. Nous aussi, ça a été très difficile pour nous. Ça a failli nous mettre en péril. Mais on était tout petit, donc on est passé entre les gouttes. Et puis finalement, le petit poussé qui a commencé à toute petite échelle, ben, petit à petit, il a grandi. Et puis, il a pris sa place. Et un certain nombre des géants qui étaient déjà là sont partis, ont quitté un peu la région. Et finalement, progressivement, on est devenu un opérateur important du Languedoc.
Il y a quelque chose qui est super intéressant là-dedans et dans l'histoire que tu mentionnes, c'est le... qui me fascine un peu, mais c'est la place au temps qui est laissée. Parce que tu disais que t'arrives entre 90 et 2003, c'est ça, dans le Languedoc?
95 et 2003.
95 et 2003. En fait, ce que je veux dire par là, c'est que si tu pars de rien ou de pas grand chose, mais en fait, tu dois faire une première année, faire du vin, commercialiser, gagner un peu d'argent, puis faire la deuxième un peu plus grosse. Mais ce que je veux dire par là, c'est que ton cycle de croissance, il est annuel. Il peut pas être au trimestre ou au mois. Tu peux pas te dire, OK, ce trimestre-là, on va faire plus 30%, on va pouvoir réinvestir, etc. En fait, t'es obligé de capitaliser sur le temps long, de prendre ton temps, etc. Alors, peut-être que du coup, ça, c'est utile pour bien t'implanter localement, pour justement prendre place dans la communauté et pas juste être là pour faire un coup ou partir ensuite. Mais enfin, je trouve ça assez incroyable. Alors après, peut-être que dans le monde du vin, du coup, t'es habitué au temps long parce que c'est quelque chose que t'as connu depuis longtemps.
C'est exactement ça.
Donc, mais je pense, je suis très impatient. Donc.
Maintenant, je peux parler comme un vieux d'une certaine manière parce que je commence à avoir un petit peu d'expérience derrière moi, d'expérience accumulée. Mais je pense deux choses en fait. D'abord, effectivement, dans le monde du vin, on est dans un monde de temps long. On est dans un monde de temps long. Quand on vient de Bourgogne en particulier, si les plus grands domaines bourguignons sont connus et ont eu la réputation qu'ils ont, c'est parce que c'est une réputation d'excellence qui s'est accumulée sur parfois 400 ans. Donc c'est des temps extrêmement longs. J'aime beaucoup cette vraie philosophie bourguignonne en fait, qui est que les grands vignobles bourguignons, les climats de Bourgogne, ils se sont développés vraiment à partir du XIIe siècle à peu près. Il y a pratiquement 800 ans maintenant d'histoire accumulée derrière nous, et c'est ça qui a constitué la Bourgogne. Et en fait, nous, on est des passeurs, on hérite de vignes qui ont été développées et dont la qualité a été poussée à l'extrême par des générations et des générations et des générations de vignerons. Et notre travail, c'est d'essayer de les cultiver le mieux possible, de faire de notre mieux, d'essayer d'améliorer des détails absolument infimes pour passer aux générations d'après. D'ailleurs, en parlant avec quelques vignerons qui ont vraiment cette approche très philosophique de la viticulture que moi j'adore absolument, on n'est même pas propriétaire de nos vignes, on est des sortes de locataires finalement. Elles nous appartiennent pas, elles appartiennent aux générations passées et à venir. Donc le temps long dans le vin, c'est quelque chose auquel on est habitué et ça fait partie vraiment de la culture. Mais au-delà de ça, je pense que même dans le monde de l'entreprise, il faut absolument toujours compter sur le facteur temps. C'est très bien d'avoir une vraie stratégie, c'est très bien de vouloir renverser la table, c'est très bien de travailler énormément. Tout ça, c'est absolument indispensable, de créer des marques, enfin tout ce qu'on peut imaginer. Mais une vraie marque, à mon avis, que ce soit dans le vin ou dans n'importe quel domaine, c'est quelque chose qui, une marque, elle émerge à l'épreuve du temps. C'est qu'est-ce qui fait que une étiquette, un nom sur une bouteille, pour parler vin, devient une vraie marque reconnue? Ben c'est parce que en fait, elle a bravé le temps. Alors ça peut être quelques années, ça peut être 10 ans, ça peut être beaucoup plus long. Mais quand on cite les grandes marques françaises de vin, c'est toutes des marques qui ont des décennies et des décennies. C'est vraiment l'épreuve du temps qui éprouve, c'est le cas de le dire, la solidité des marques, et pas seulement des marques. Je pense que c'est la même chose dans les affaires, dans le business, etc.
Ouais, c'est clair. Il y a un entrepreneur que je suis pas mal, qui s'appelle Gary Vaynerchuk, pour le coup, qui a un dicton.
Je connais.
Qui est macro patience, micro speed. Et en fait, c'est être ultra patient sur le temps long, et en fait dire. Bon, lui, il a une lubie, c'est de racheter les jets, mais je sais pas, moi, je pourrais avoir une lubie de racheter des vignes à Nuit-Saint-Georges un jour. Mais en fait, ça, c'est macro patience, parce que bah, ça arrivera peut-être un jour, mais il faut construire quelque chose d'important pour le faire. Mais par contre, micro speed, et au quotidien, essayer de, bah, je sais pas, de faire toutes les actions qu'on peut faire pour
régler tous les détails, etc. Mais en plus de ça, moi j'ai eu la chance à mon échelle modestement d'avoir développé quelques marques qui sont pas trop mal, dont la marque Les Jamelles. Et c'est vraiment quand on se retourne, ça rejoint ce que tu dis, parce qu'en fait, au quotidien on s'en rend pas compte. Au quotidien, tous les matins, on se lève, on fait son boulot. C'est important d'avoir une vraie vision et d'être fidèle à cette vision. Ça aussi. Alors encore une fois, je veux pas passer pour un vieux con, mais si je peux donner un petit conseil aux gens qui veulent vraiment créer quelque chose dans le vin, c'est aussi d'avoir d'avoir une vraie réflexion, d'avoir une vision 360 et d'avoir une idée extrêmement claire de ce qu'ils veulent, d'avoir une vraie stratégie, et c'est ensuite aussi d'y être fidèle. C'est-à-dire que c'est la même chose, ça rejoint la notion du temps. Il faut du temps pour éprouver, au contact du consommateur, au contact des prescripteurs, etc., la validité d'un concept et d'une marque. Et je vois trop de gens, en fait, voilà, qui créent une superbe étiquette, un super nom, quand on a le sentiment d'avoir trouvé quelque chose d'extraordinaire. Et puis, ils présentent ça à 2-3 clients. Ils ont des objections, et on en a toujours. On en a eu énormément, nous, quand on a commencé. Mmh. Et donc, du coup, ils écoutent trop les objections en question. Ils changent quelques éléments dans le produit, puis finalement au bout de quelques temps le produit c'est plus du tout le concept d'origine, et c'est pas surprenant, ça marche pas. Mmh. Et en fait ce qu'il faut, c'est vraiment croire à ses convictions, à ses concepts, à ses principes, et pousser ça de façon très méthodique tous les jours. C'est il faut labourer la terre, quoi. C'est encore une fois une métaphore un petit peu agricole. On est toujours dans le monde de la viticulture, mais voilà, tous les matins faut se lever, faut labourer, faut sortir le cheval, faut atteler la charrue, et faut y aller. Et puis c'est après un certain nombre d'années, et encore plus après 10, 20, 30 ans comme moi maintenant, en se retournant, on se dit ah oui, il y avait quand même une certaine cohérence, il y avait une certaine logique. Mais c'est aussi parce que voilà, il faut accepter tous les matins de se remettre un petit peu au travail et de se retrousser les manches.
Ouais, c'est clair. Ça, c'est Henry Ford qui disait si j'avais demandé aux gens ce qu'ils voulaient à l'époque, ils m'auraient répondu des chevaux qui vont plus vite.
Des
chevaux qui vont plus vite.
Oui.
Alors, donc en fait, j'aurais jamais eu de voiture.
Ben oui. Bref.
Est-ce que tu penses que ce serait encore possible de faire ce que tu as fait dans le Languedoc aujourd'hui, ou pas dans le Languedoc, mais dans une autre région? Mais est-ce que tu penses que c'est un modèle qui est encore possible à créer?
Je pense que c'est possible, et il y a encore des gens qui le font, et ça aussi c'est quelque chose d'assez formidable dans le monde du vin, que ce soit en Languedoc et partout, et en Bourgogne aussi. Moi, je suis assez fasciné de voir des gens qui arrivent, des jeunes, qui ont des idées, qui trouvent un positionnement, qui ont justement un concept, et qui démarrent de rien, et puis qui y arrivent pas trop mal. Ici en Bourgogne, quand on discute avec pas mal de gens, on a tendance un petit peu à se plaindre, à dire mais il y avait beaucoup plus de maisons dans le temps, il y en a beaucoup qui ont disparu, c'est de plus en plus concentré. C'est pas vrai. Bien sûr qu'il y a de la concentration, il y a des maisons qui arrêtent, qui disparaissent, il y en a d'autres qui sont rachetées, etc. Mais il y a aussi plein de jeunes qui s'installent, y compris dans une région comme la Bourgogne, où on peut penser, c'est tout à fait vrai, que l'accès aux approvisionnements est très compliqué, que ça coûte très cher, etc. Mais moi, je vois plein de gens qui commencent avec très peu de choses et qui s'installent. C'est la même chose dans le Languedoc. Je suis assez admiratif de certaines petites maisons qui ont commencé à apparaître depuis relativement peu de temps, plus récemment que nous en particulier. Je pense à des gens comme Kadmel et Joseph, des gens comme ça, qui font un travail qui est absolument formidable. Donc c'est tout à fait possible. C'est peut-être un peu plus difficile qu'à notre époque, et c'est surtout, et pardon si je suis trop financier et technique, mais ça demande certainement un peu plus de capital et d'investissement que c'était le cas à notre époque. Nous, quand on a commencé dans le Languedoc, on avait pas du tout d'argent, donc ça tombait bien que la situation soit comme ça et permette de le faire, mais on était dans une période un peu de surproduction à cette époque-là. Donc c'était assez facile pour nous, tout petits, d'arriver et de convaincre justement des viticulteurs, des caves, des petites caves coopératives, de nous attribuer telle cuve, les raisins de telle parcelle de vigne, etc. Et puis finalement, si en cours d'année on en avait besoin d'un petit peu plus, ils avaient toujours une cuve qui était disponible. On avait beaucoup plus de produits à notre disposition, donc c'était plus confortable. On pouvait travailler commercialement, et en fait, on n'a jamais eu de problème finalement. Les quelques fois, on a pu décrocher des marchés qui nous ont permis de progresser, mais qui étaient plus importants que ce à quoi on s'attendait. On a toujours réussi à trouver ce qui nous manquait, et ça s'est toujours bien passé. Ça devient différent maintenant, un peu partout en France en particulier, où on a beaucoup arraché de vignes, la viticulture, la surface du vignoble globalement a décliné. On a beaucoup de mal, ça c'est un autre sujet, mais c'est un sujet de préoccupation et de réflexion très important et très intéressant. On a beaucoup plus de mal maintenant à faire venir des jeunes au métier de la viticulture. La transmission, la passation de génération en génération se passe beaucoup plus difficilement. Et on est dans une situation maintenant où l'offre a beaucoup baissé, est inférieure à la demande, et donc c'est beaucoup plus difficile effectivement. C'est-à-dire que maintenant, nous, on a beaucoup grandi, on a des structures, et ça nous a amené dans le Languedoc à changer complètement de business model en fait. C'est-à-dire que maintenant, il faut qu'on intègre d'une certaine manière beaucoup plus l'amont. Ça se fait à la fois, on a acheté un petit peu de vignes, on a 140 hectares de vignes maintenant, c'est rien par rapport à des gens comme Gérard Bertrand, etc., qui ont 800 hectares. Et on n'a pas vocation, en ce qui nous concerne, je pense, à posséder et à contrôler le foncier de la totalité de ce qu'on produit. Mais du coup, ça nous amène à réfléchir à beaucoup de partenariats en amont, avec des viticulteurs, avec des caves, pour avoir un vrai partenariat, pour les encourager à s'impliquer, pour les encourager à se lancer dans certains cas, pour leur assurer un débouché et pour avoir des contrats long terme, des partenariats et tout. Et ça, c'est plus coûteux. Ça nous a obligés, nous aussi, à investir dans des caves, des cuveries de vinification, d'élevage. On a 3 cuveries dans le Languedoc, et on est obligé maintenant effectivement d'acheter beaucoup plus de raisins, de vinifier, de stocker. On trouve beaucoup moins facilement ce qu'on trouvait facilement sur le marché avant. À la fois, c'est parce que bien sûr nos besoins ont augmenté parce qu'on a grandi, mais c'est aussi parce qu'il y a beaucoup moins de disponibilité sur le marché. Et c'est là, on arrive à une situation dans le Languedoc qui ressemble finalement un petit peu à ce qu'on connaît bien en Bourgogne, qui est une situation un petit peu plus de rareté de l'offre. Il faut s'assurer effectivement de ces approvisionnements, et ça demande une organisation un peu différente.
Je garde en tête ces éléments d'implantation ou de possibilités. Je pense que c'est une des bonnes manières en fait de démarrer quand on n'est pas viticulteur justement, ou quand on ne connaît pas bien la vigne. Venons-en à la maison Édouard Delaunay. Donc tu effectues ce rachat. Après, ça a dû être quelque chose d'incroyable pour toi.
Ça a été quelque chose d'absolument incroyable.
Même pour ta famille, ça devait être
d'absolument, franchement, inespéré. Et comme je disais tout à l'heure, moi je suis, à titre personnel, je suis croyant, donc je crois en la providence. Et pour moi, c'est un signe de la providence, parce que c'est quelque chose qui n'aurait jamais dû se passer, en fait. Et d'ailleurs, qui se passe jamais. La Bourgogne, d'ailleurs, c'est un vrai sujet de discussion au sein du vignoble bourguignon. On a beaucoup plus de domaines et de maisons qui sont vendus, et qui sont vendus parfois, voire souvent, avec le prix du foncier, à des investisseurs, institutionnels, à des étrangers. Et il y a un vrai souci, en fait, de garder ce patrimoine foncier, culturel, etc., au sein des familles bourguignonnes. Donc on est plus dans cette situation-là. Donc une famille, en fait, qui a vendu et qui rachète 25 ans après, c'est quelque chose qui arrive jamais, en fait. Donc c'est sûr que c'était... on a eu quelques temps, quelques semaines où on était absolument sur un petit nuage.
C'est clair.
C'était vraiment quelque chose de magnifique. Alors pour nous, pour moi, pour ma famille aussi, malheureusement, beaucoup de mes parents étaient partis entre-temps, une partie de mes oncles et tantes aussi, donc je regrette beaucoup que certains d'entre eux, qui avaient été un peu affectés d'ailleurs par la vente de la maison à l'époque, aient pas vu ça. Mais oui, c'était quelque chose d'absolument formidable.
T'en as parlé avec, enfin, je suppose que oui, mais avec ton cousin aussi, ça devait être.
Oui. Il devait être. Oui, oui, tout à fait. Tout le monde était absolument ravi. Oui. Dans la famille, à ma génération, mes cousins, c'était effectivement un grand moment de bonheur.
Ouais, c'est clair. Alors, raconte-nous un peu du coup. Qu'est-ce que c'est la maison Édouard Delaunay? Quel type de vin est-ce que vous avez? Où est-ce que vous êtes? Enfin, est-ce que tu peux nous décrire un peu le paysage auquel on va s'exposer ensuite dès après cet enregistrement?
Alors, mon objectif, en fait, la maison Édouard Delaunay, à l'époque des générations précédentes, c'était une petite maison, un petit négociant éleveur traditionnel bourguignon, avec un petit peu de vigne également, plutôt qualitatif. Moi, je dirais très qualitatif. J'ai été élevé dans ce milieu-là. Peut-être pas avec la notoriété des plus grandes maisons et des plus grands domaines à l'époque, si je remonte aux années 80-90, parce qu'on était petit, et puis aussi parce que à l'époque, on n'était peut-être pas les meilleurs à la génération de mon père et de mon oncle pour communiquer et pour le faire savoir. Mais tous les gens qui travaillaient avec la maison Delaunay étaient très favorablement impressionné par la qualité, et la qualité constante en particulier. Donc moi, mon objectif, quand j'ai repris la maison, en fait, en 25 ans, avait pratiquement disparu. Donc c'était assez confortable, d'une certaine manière, parce que d'un côté, je repartais pratiquement d'une page blanche. Je pouvais tout réécrire un petit peu comme je le concevais, comme je le pensais, en bénéficiant finalement d'une petite aura qui était pas très grande, mais il y avait pas de passif, c'était plutôt une bonne réputation, que ce soit localement ou que ce soit sur les marchés. Bon, beaucoup de gens se rappelaient plus vraiment de la maison Delaunay, c'est vrai, mais j'ai une petite anecdote. J'ai fait une dégustation pour présenter notre premier millésime 2017 à Londres, et il y avait Jancis Robinson qui était là, donc la grande et fameuse critique anglaise, et qui me dit: c'est incroyable, j'ai dégusté une bouteille de Griot Chambertin 83 de votre père à Hong Kong il y a 3 semaines. Donc c'était vraiment, ça tombait bien, quoi. C'était une coïncidence vraiment amusante. Mais toujours est-il que mon objectif, en fait, c'était de réinstaller Édouard Delaunay vraiment dans l'élite bourguignonne. Alors quand je dis ça, c'est très ambitieux, mais ça peut paraître même assez prétentieux, parce que l'élite bourguignonne, Dieu sait qu'elle est haute, qu'elle est élevée. Et d'autant plus que j'ai été assez frappé, j'avais peut-être pas réalisé complètement à quel point, entre les années 90, qui étaient les années où j'avais un peu quitté moi ce métier de négoce éleveur bourguignon, et 2017, l'année où je suis revenu, à quel point le niveau qualitatif avait progressé de façon absolument incroyable. C'est incroyable à quel point, depuis 20-30 ans, la qualité des Bourgognes a progressé, et à quel point le niveau qualitatif moyen a monté. C'est extraordinaire. Donc le challenge était très très ambitieux. Mon objectif, en fait, comme ce qu'on a racheté, c'est essentiellement une marque, un nom, donc la possibilité de faire des vins avec le nom de ma famille et avec le nom de la maison Édouard Delaunay, qui était le nom de mon arrière-grand-père, qui en était le fondateur. Et puis ce qu'on a racheté aussi, ce sont des bâtiments, caves, cuveries, qui étaient les bâtiments de ma famille, dans lesquels j'avais été élevé, dans lesquels je jouais quand j'étais enfant. Et donc le projet, en fait, s'est dessiné très vite dans ma tête. Objectif, constituer ce qu'on appelle en Bourgogne un micro-négoce. Les anglo-saxons disent boutique winery. Pas de vigne, donc trouver du raisin. Donc en fait, trois directions sur lesquelles on a travaillé à partir de la reprise. Première chose, puisqu'on a récupéré les bâtiments étaient dans un état, l'outil de vinification en particulier, enfin il n'y avait plus rien, c'était dans un état assez dégradé. Donc première chose, en fait, on a lancé des travaux de rénovation de manière à constituer un outil de vinification de la plus haute qualité possible. Donc on a eu à peu près un an de travaux, pratiquement, pour remettre complètement à niveau les bâtiments. Tu les verras tout à l'heure, on va les visiter. Donc refaire l'intérieur, en particulier des bâtiments, du sol au plafond, pratiquement, et équiper ces bâtiments d'un matériel de vinification et d'élevage à la pointe de la technique, nous permettant d'avoir un contrôle vraiment optimal sur les méthodes de travail. Deuxième chose, il fallait aussi que je me constitue une équipe, parce que je continue à superviser le Languedoc, etc. Je pouvais pas faire tout seul, même si j'avais des idées assez précises de ce que je voulais faire. Donc c'est la même chose, j'ai cherché, on a constitué une équipe, on a recruté, et j'ai trouvé deux personnes, une en particulier, un jeune œnologue qui s'appelle Christophe Briotet, dont je connaissais la famille, nos familles se connaissaient depuis assez longtemps. Christophe est d'origine bourguignonne, il est œnologue, ingénieur agro, il vient de fêter ses 37 ans hier, il a travaillé en Bourgogne dans plusieurs beaux domaines. Il a travaillé un petit peu à l'étranger aussi. C'est intéressant pour moi qu'il ait une vision internationale. Et au cours des 5 dernières années, il était l'œnologue, le chef de cave du lycée viticole de Beaune, de l'école de viticulture de Beaune. Donc, au contact de tous les jeunes bourguignons qui viennent se former à la viticulture et à l'œnologie. Donc, une expérience très intéressante. Donc, Christophe a accepté de nous rejoindre. Et puis également, pour le clin d'œil et l'anecdote, j'ai également embauché Didier Verpeau, qui est notre chef caviste, qui est originaire de l'Étang-Vergy, le village qui est mon village d'origine. Il habite à l'autre bout du village, et son père était caviste, son oncle était caviste chez nous, donc une tradition familiale, et lui arrive maintenant un petit peu en fin de carrière, mais il a fait toute une carrière de caviste pendant toute sa vie, dans plusieurs très belles, jolies maisons bourguignonnes. Donc, deuxième étape, constituer cette équipe. Et troisième étape, la plus difficile, en fait, trouver du raisin. Et là, j'avoue que autant les deux premières phases, c'est des choses qui se planifient, qui se mettent dans un tableau Excel, c'est pas très compliqué, en fait. Autant la troisième, j'avais une très grande incertitude sur ce qu'on allait pouvoir trouver comme raisin, parce qu'on voulait trouver des raisins de la plus belle qualité possible, sur la Côte de Nuit et la Côte de Beaune, parce que notre objectif était vraiment de nous concentrer sur la Côte de Nuit et la Côte de Beaune, le cœur qualitatif de la Bourgogne, et de constituer une petite gamme d'une vingtaine d'appellations, pour commencer. Alors ça peut paraître beaucoup, mais on est dans une région, la Bourgogne, où on a un nombre d'appellations absolument incroyable. Donc on avait cet objectif, une vingtaine d'appellations, Côte de Nuit, Côte de Beaune. Et c'est là où, en fait, j'ai fait appel à tout mon réseau. À la fois le réseau familial, amical, une de mes sœurs et son mari sont viticulteurs à Meursault, j'ai plusieurs cousins qui sont viticulteurs, tous mes meilleurs amis sont viticulteurs ici en Bourgogne, et puis, je le disais tout à l'heure, on a aussi, on avait racheté en 2003 cette petite structure de commercialisation de vins de domaine, qu'on a beaucoup développé entre-temps, et qui travaille maintenant avec à peu près 180 domaines en Bourgogne, donc ça nous donne un réseau assez incomparable, en fait, ici en Bourgogne. Donc on a contacté un petit peu tout le monde, et finalement j'ai été tout à fait surpris, et heureusement surpris, Ça aussi, ça a été un grand moment de bonheur que beaucoup, beaucoup des domaines en question, des viticulteurs en question, ont accepté de nous vendre un petit peu de raisin, y compris des gens qui normalement vendent pas de raisin, mais qui m'ont dit, Laurent, on est tellement content pour toi, on est tellement content pour ta famille, c'est une super histoire que normalement on vend pas de raisin, mais allez, l'équivalent d'une pièce ou deux pièces, tu trouveras toujours ça chez nous, ça sera toujours disponible pour toi. Donc on a commencé comme ça, et notre premier millésime a été 2017. Et à partir de là, donc on a travaillé de façon très étroite avec Christophe. On a tous les deux en commun d'être des gens, je pense, assez précis, assez méticuleux. On avait une idée assez précise de ce qu'on voulait. On a une façon de travailler, en fait, où c'est tout sauf appliquer une recette. Mmh. C'est-à-dire qu'en fait, on part vraiment de la vigne. On achète les raisins qui sont les raisins d'une parcelle de vigne. Ça commence vraiment par une discussion avec le viticulteur avec qui on est en contact vraiment le choix avec lui d'une parcelle où il accepte de nous vendre du raisin et une parcelle qui nous intéresse. Et c'est vraiment d'abord un travail de terroir. Et quand on voit cette parcelle avec Christophe en connaissant bien la Bourgogne, on a tout de suite, connaissant bien la Bourgogne, connaissant bien les différents terroirs, on a tout de suite une idée très très précise du vin qu'on va pouvoir obtenir. Selon l'emplacement de la parcelle, selon son orientation, est-ce que c'est des sols profonds, est-ce que c'est des sols caillouteux, est-ce qu'il y a beaucoup d'argile, des terres rouges, des terres plus jaunes, etc. L'âge des vignes, la qualité du raisin, etc. En voyant vraiment la vigne à l'approche des vendanges, on sait, on a une idée claire en tête de ce qu'on va pouvoir obtenir, de ce à quoi le vin va ressembler, quelles vont être ses caractéristiques naturelles en fait. Et ensuite, c'est que une question de s'adapter pour finalement aider le vin d'une certaine manière à révéler le caractère qu'il a déjà en lui. Je fais souvent l'analogie avec le rôle des parents. Quand on a des enfants, le rôle des parents, finalement, pour moi, c'est de mettre les enfants dans les meilleures conditions possibles pour leur permettre d'exprimer leur personnalité qu'ils ont en eux. Tous les parents savent que depuis tout petit, on se rend compte que nos enfants ont leur propre personnalité. Ils ont une vraie personnalité. Et en fait, il faut les mettre dans la situation de révéler cette personnalité. Ben, je pense que vinifier du vin et élever du vin, c'est exactement la même chose. Et le résultat de cette réflexion-là, c'est qu'en fait, sur nos 20 premières appellations en 2017, et on a augmenté un petit peu depuis, maintenant, on travaille une trentaine de vins, il n'y a pas un vin qui est vinifié de la même manière que son voisin. Que tous les choix qu'on a à faire en tant que vinificateur, que ce soit le tri, que ce soit est-ce qu'on fait un peu de vendange entière, quelle proportion, oui ou non, la durée de la macération, un peu de macération à froid ou pas, la température, les pigeages, beaucoup de pigeages, pas beaucoup de pigeages, la longueur de la macération, ensuite tous les choix d'élevage, les types de fûts, la durée de l'élevage, est-ce qu'on va soutirer pendant l'élevage ou pas. Mais finalement, chacun de nos vins est travaillé d'une façon tout à fait différente parce qu'on essaye de s'adapter à la personnalité du vin pour essayer de le mettre dans les conditions de s'exprimer au mieux. Et on n'a pas un vin, finalement, au bout du compte, qui est fait de la même manière. Donc, il n'y a pas un style maison, il n'y a pas une technique maison, mais il y a une adaptation et un grand pragmatisme à chaque type de vin et qui nous est donné par la dégustation. S'il y a un élément très important chez nous, c'est qu'on passe un temps mais infini en dégustation. On a un petit comité de dégustation avec Christophe, avec Catherine, Sylvain Colson, qui est notre chef œnologue et qui a une très très bonne expérience des vins de Bourgogne, et moi, et on passe des heures et des heures à déguster à chaque stade de la vinification et de l'élevage du vin. Il n'y a pas une décision qui est prise sans avoir fait une dégustation extrêmement large avant, fût par fût, pièce par pièce, pour décider fût par fût, pièce par pièce, ce qu'on va faire. Et voilà, donc s'il y a pour moi deux mots clés un petit peu sur notre façon de travailler, c'est pureté et précision. Ce qu'on veut, c'est avoir des vins qui expriment au travers de leur cépage étant un petit peu comme l'instrument de musique qui va faire vibrer la partition qui a été composée par le compositeur. La partition, c'est une donnée qu'on a, c'est le terroir. Le cépage, notre travail, c'est l'instrument. Et puis, le résultat final dans la bouteille, ben, c'est la mélodie qu'on entend d'une certaine manière. Donc, on essaye d'exprimer la pureté du terroir au travers du cépage et du produit. Et le deuxième mot-clé, c'est précision. Parce qu'on est des gens qui essayons de travailler avec beaucoup, beaucoup de précision et justement beaucoup de pragmatisme, pas d'idées préconçues, pas d'idées arrêtées, mais beaucoup d'ouverture.
Ça donne très envie de les découvrir, évidemment. Ce que tu disais, c'est aujourd'hui une trentaine d'appellations
oui.
qui sont présentes, essentiellement Côte de Beaune, Côte de Nuit, toujours.
Essentiellement Côte de Beaune, Côte de Nuit, et depuis 2019, donc premier millésime 2017. Donc maintenant, enfin le temps passe à une vitesse absolument incroyable parce qu'on a vinifié 17, 18, 19, 20, 21. On a déjà 5 campagnes derrière nous. Côte de Nuit, Côte de Beaune. Donc on a pu étendre petit à petit notre gamme d'appellations parce qu'on avait plus de temps pour trouver de nouvelles parcelles, trouver des nouveaux accords et des nouveaux partenariats avec des viticulteurs. Et en 2019, deux évolutions importantes pour nous après notre deuxième année. La première, c'est qu'en 2019, on a pu prendre en exploitation un petit peu de vigne, 2,5 hectares, c'est tout petit, mais c'est un début, à Pommard. On exploite super. Maintenant 2,5 hectares avec du Pommard Village et 2 premiers crus qui sont superbes, les Pézerolles qui est au nord de Pommard côté Beaune, et les Chaponnières qui sont au milieu de Pommard juste en dessous des Rugiens qui est le premier cru le plus emblématique de Pommard. Et donc on a commencé avec le millésime 2019 et c'est quelque chose, on est extrêmement content de ces produits. Ça nous permet d'avoir effectivement une meilleure maîtrise parce que cette fois-ci on peut cultiver les vignes un petit peu à notre idée et on a la maîtrise du cycle végétatif de la vigne et c'est quelque chose qu'on voudrait développer un petit peu dans l'avenir, mais voilà, ça va dépendre des opportunités qui sont assez rares. Il faut trouver les opportunités, il faut convaincre les propriétaires d'accepter de travailler avec nous plutôt qu'avec quelqu'un d'autre, etc. Mais c'est vraiment une direction dans laquelle on souhaite aller de plus en plus. Je parlerai peut-être du foncier et des opportunités d'achat de vignes plus tard, mais ça va faire le lien avec la deuxième évolution importante en 2019. En 2019, on a commencé aussi à travailler sur les Hautes-Côtes de Nuit. Je suis originaire des Hautes-Côtes. Mon village d'origine, l'Étang Vergy, qui se trouve à 8 km de Nuit-Saint-Georges, se trouve au cœur des Hautes-Côtes. Et moi, j'ai été élevé dans cette région. J'ai une vraie affection pour cette région. Et c'est une région qui est absolument magnifique, qui est donc à quelques kilomètres à l'ouest, en retrait de la Côte de Nuit et de la Côte de Beaune, plus de relief, plus d'altitude, et la vigne est plantée uniquement sur les terroirs les mieux orientés. La Côte de Nuit et la Côte de Beaune, on est presque dans des zones de monoculture, avec cette configuration bourguignonne de cette côte qui est exposée à l'est et qui correspond à une situation absolument formidable pour produire des raisins de qualité exceptionnelle. Les Hautes-Côtes sont beaucoup plus variées. C'est une zone de polyculture où vous avez de l'élevage, vous avez des grandes cultures, vous avez des bois sur les dessus des collines et vous avez de la vigne uniquement sur quelques coteaux exposés à l'est, au sud, à l'ouest parfois, mais uniquement les coteaux les mieux orientés. Et moi je connais extrêmement bien cette région. On avait, du temps de mon père et jusqu'à la cession, on avait un domaine d'une dizaine d'hectares en Haute-Côte de Nuit. Je m'en suis occupé quand j'ai commencé à travailler avec mon père. J'ai même été secrétaire du syndicat viticole à l'époque. Donc je connais vraiment très très bien, je connais tous les producteurs, etc. Et je trouve que ces Hautes-Côtes ont un avenir exceptionnel devant elles. Particulièrement en période de réchauffement climatique, en période de changement climatique, j'irais même jusqu'à dire que c'est certainement une des réponses et des solutions au changement climatique en Bourgogne, puisque en fait, si je prends l'exemple de l'étang Vergy, on est à 4 km à vol d'oiseau de Vaune-Romanée et du Clos Vougeot, et on est 100 à 150 mètres plus haut en altitude sur des terroirs et des sols qui sont tout à fait proches tout à fait comparables. Et donc, on arrive à avoir des produits qui gardent naturellement une fraîcheur, qui ont des maturités très équilibrées, qui se révèlent d'ailleurs ces dernières années avec le réchauffement climatique. Dans les années 70-80, les vins des Hautes-Côtes étaient des vins qui étaient acides, minces, austères, etc. Ça a complètement changé. On a maintenant des vins qui sont vraiment tout ce qu'on rêve et tout ce qu'on aime dans le Pinot Noir, avec la fraîcheur, avec l'élégance, avec justement ce côté un petit peu plus aérien. Et finalement, il y a tout un travail qui est à faire, qui est le travail qu'ont fait les moines dans notre côte bourguignonne, la côte des climats à partir du XIIe siècle, qui est ce travail justement d'identification des meilleurs terroirs. Je ne sais pas si on dit isolement ou isolation des terroirs en question pour les vinifier à part, avec une approche de sélection parcellaire pour voir vraiment sur plusieurs années le potentiel des terroirs en question. Et qui sait, je me prête à rêver, et je sais qu'on est vraiment dans le temps long, particulièrement en Bourgogne, mais qui sait si dans 100 ans, ça sera pas les futurs premiers crus, les futurs grands crus de la Bourgogne. Donc c'est une aventure absolument passionnante. Donc on s'est lancé dedans en 2019, et on continue maintenant à avancer. On a de vrais projets dans les Hautes-Côtes. On a créé une petite gamme au sein de la famille Édouard Delaunay, avec un Haute-Côte de nuit rouge et un Haute-Côte de nuit blanc, d'assemblage de plusieurs parcelles, et avec une approche de sélection parcellaire sur des parcelles qu'on vinifie à part. Et on en a une en particulier qui s'appelle Les Roirs, qu'on fait maintenant depuis 2019 et qui donne de très très beaux résultats. Les Roirs, c'est une parcelle qui est entre Villars-Fontaine et Concœur, pour ceux qui connaissent, exposé sud-sud-est, et on est à 3 km au-dessus des vignes de Vaune-Romanée. Et on est 100-120 mètres plus haut en altitude. Donc une situation qui est extrêmement intéressante. Et on travaille aussi sur d'autres sélections parcellaires, bon, qu'on n'a pas décidé de garder jusqu'à présent, parce qu'elles n'ont pas encore donné suffisamment de résultats intéressants. Mais c'est vraiment une direction dans laquelle on veut s'orienter de plus en plus.
Impressionnant, et on a hâte de découvrir dans les 100 prochaines années. Alors c'est peut-être plus moins non
alors,
plus.
Alors, mais... si je peux juste rajouter une chose, une des choses dont je rêve aussi, et ce que j'aimerais vraiment faire, c'est aussi pouvoir acheter un petit peu de vigne. Mm-hmm. Bon, la côte de Nuit et la côte de Beaune, c'est devenu complètement inabordable.
Ouais, c'est un peu plus facile.
Je serais jamais capable de le faire tout seul. Peut-être si je trouve des investisseurs pour m'aider.
On fait à deux si tu veux. Moi, je veux bien.
Je lance un appel. Il y aura peut-être des possibilités. Mais par contre, justement, les Hautes-Côtes sont une région dans laquelle il reste pas mal de choses à faire. Il y a encore d'ailleurs beaucoup de terres en Haute-Côte qui sont même pas plantées, qui sont classées en appellation mais qui sont pas plantées. Et puis on peut trouver du vignoble à des prix encore relativement abordables. Donc ça fait vraiment partie des choses effectivement que j'aimerais essayer de faire et auxquelles j'aimerais m'intéresser dans les années qui viennent.
Bon, je couperai cet extrait du coup au moment de le publier. Ça, je vais garder cette information pour moi.
Les bonnes informations confidentielles.
L'insider trading en direct. Non, mais enfin, c'est un projet qui est incroyable. Et effectivement, cette classification de la Haute-Côte, etc. Ça doit être ultra prenant, mais en même temps super intéressant d'essayer de vinifier parcelle par parcelle.
Exactement.
C'est un peu une plongée aussi dans l'histoire. Enfin, t'as mentionné l'histoire des moines, mais c'est une plongée dans les pratiques qu'il pouvait y avoir à l'époque, dans aussi la dégustation, l'identification.
Alors ça me passionne d'autant plus quand tu parles d'histoire, parce que je suis passionné de l'histoire de la Bourgogne et particulièrement de l'histoire des Hautes-Côtes. Alors c'est pareil, je veux pas faire une digression qui va nous prendre des heures et des heures, mais juste au-dessus de l'étang Vergy, juste pour l'anecdote, il y a une colline qui s'appelle la colline de Vergy, qui a donné son nom au village et aux trois villages environnants d'ailleurs. Et sur cette colline, au Moyen-Âge, il y avait un des châteaux les plus puissants du royaume de France, avec une vraie culture locale, etc. Et au sud de la colline, il y avait une abbaye, dont il reste que les ruines, qui s'appelle l'abbaye de Saint-Vivant. Et ce sont les moines de Saint-Vivant qui, à partir du XIIe siècle, ont reçu un don du duc de Bourgogne à l'époque. On a encore l'acte de donation, et c'est très intéressant parce que sur cet acte de donation, il est marqué que le duc de Bourgogne donne aux moines de Saint-Vivant des terres et friches incultes, cises à Vaune et à Flagey. Et ces terres et friches incultes, ce qui signifie que c'était pas cultivé avant, c'était pas de la vigne avant, en 400 ans, les moines de Saint-Vivant en ont fait rien moins que la Romanée Conti, et la Romanée Saint-Vivant. Donc la Romanée Conti et la Romanée Saint-Vivant étaient les possessions de ces moines de Saint-Vivant, dont les ruines sont à 400 mètres à vol d'oiseau de ma maison. C'était mon terrain de jeu quand j'étais enfant, avec tous les enfants du village, on allait jouer au chevalier dans ces ruines romantiques et passionnantes. Et on a une chance assez extraordinaire, c'est que en 80... je sais plus si c'était 16, 17, 18, quelque chose comme ça, le terrain sur lequel se trouvent ces ruines a été à vendre, et c'est le domaine de la Romanée Conti qui a racheté ce terrain, et qui ensuite a constitué une association qui s'appelle l'Association de l'Abbaye de Saint-Vivant, et ils ont décidé, avec bien sûr l'aide des monuments historiques, etc., de sauvegarder ce site qui était complètement en ruine et qui s'effondrait de plus en plus, qui était vraiment complètement en péril. Alors ce sont des ruines, hein, mais c'était des ruines, si rien n'était fait, en quelques années, ça serait devenu vraiment... quelques tas de cailloux au ras du sol, et il y avait absolument plus rien. Et il y a eu maintenant, depuis 2000 à peu près, plus de 20 ans de travaux, année après année, des travaux de sauvegarde, pas du tout des travaux de reconstruction, mais des travaux en fait pour, d'une certaine manière, cristalliser, figer en l'état et protéger ce site. Et moi, c'est quelque chose qui m'a absolument passionné. Alors je suis, à titre personnel, président de l'autre association qui s'occupe du site de Vergy également, qui s'appelle la Société d'Histoire et d'Archéologie du Pays de Vergy. Nous, on s'occupe de toute l'histoire de l'ensemble du site, l'ancien château, il y avait également une église collégiale au-dessus qui était dédiée à Saint-Denis, l'abbaye, etc. Et on est en relation absolument intime avec l'association de l'abbaye de Saint-Vivant, avec laquelle on collabore au quotidien. Mais donc toute cette histoire, tout ce patrimoine bourguignon et cette ce lien et cet ancrage à cette histoire bourguignonne et l'histoire des moines et des climats, c'est quelque chose qui me passionne absolument.
Et... je le comprends tout à fait, parce que c'est un environnement qui est incroyable. On en parlait ces derniers jours, mais de pouvoir marcher aux endroits où, tu vois, il y a 200, 300, 1000 ans, des personnes on fait des choses aussi. Et en fait, tu mentionnais tout à l'heure le fait d'être un passeur. Je pense que ça en fait partie. Et,
tout à fait.
Et quand t'es dans le vin, tu peux que avoir cette vision. T'as des enfants, toi ?
J'ai une fille.
Une fille ? Elle est...
Une fille qui s'appelle Jeanne.
Passionnée par le vin ?
Qui est passionnée par le vin, qui a 23 ans. Alors comme on n'en a qu'une, on a toujours fait très attention à pas lui mettre de pression. Ouais. Et puis en plus, comment dire, on est propriétaire, Catherine et moi, de notre boîte, de notre structure, mais d'un autre côté, on l'a aussi, on l'a recréée. C'est-à-dire que j'ai raconté l'histoire, on a réussi à racheter la maison familiale, mais il y a eu quand même une rupture un petit peu quelque part. Donc autant je sais que dans certaines familles de mes amis de grandes maisons bourguignonnes, il y a vraiment une culture familiale où depuis assez jeune, on est un petit peu orienté pour prendre la suite, et c'est extrêmement important de passer à les générations d'après. Autant nous, dans le cas de notre fille, comme en plus elle était toute seule, on voulait vraiment pas lui mettre la pression. Et puis finalement, c'est elle, vers 15-16 ans, qui un jour elle nous dit, mais vous me parlez jamais de, on en parlait à la maison, mais vous me parlez pas beaucoup de la maison, de l'entreprise. Ça vous dirait pas que je vienne travailler avec vous plus tard ? On a dit si, rien nous ferait plus plaisir que ça, mais on a toujours fait attention justement à pas te mettre la pression. Mais si ça vient de toi et si vraiment t'en as envie, bien entendu, rien ne nous fera plus plaisir que ça. Et donc elle s'est un petit peu orientée vers ça. C'est depuis 5-6 ans, c'est vraiment ce qui la motive. Et elle a fait après son bac, elle a fait une école de commerce. Elle a terminé son école de commerce en juin dernier. Et puis, elle s'est rendue compte aussi, elle a fait l'année dernière, confinement aidant, elle est venue travailler avec nous pour la période de la vinification à la cuverie Édouard Delaunay pendant un mois, pendant la période de vinification. Ça l'a beaucoup intéressée. Et elle s'est rendue compte justement qu'il lui manquait un bagage technique. Et elle a décidé de reprendre un BTS, viticulture œnologie, à Beaune, prenant la suite de son père d'une certaine manière. Et elle est en ce moment en BTS viticulture œnologie, en alternance, qu'elle fait dans un très beau domaine bourguignon chez un très bon ami qui s'appelle Thibault Ligé-Bélair à Nuit-Saint-Georges, et qui va lui apprendre beaucoup de choses, lui apporter beaucoup de choses. Donc on est vraiment absolument ravis, et elle aussi, je crois.
Magnifique. J'ai une question que je pose pas à tout le monde, mais je pense que c'est vraiment intéressant. C'est si t'avais l'occasion de te recroiser en 95 quand tu pars pour la première fois dans le Languedoc et de te glisser un petit mot à ce moment-là, qu'est-ce que tu dirais au jeune Laurent?
Alors ça, c'est une question vraiment difficile.
Il y a des bonnes questions dans ce podcast.
J'avoue que je sais pas trop. Quelque chose comme bon courage. non, quelque chose comme vas-y, crois à tes projets, avance, attelle la charrue et laboure la vigne, vas-y.
Très bien. Et ben le message est passé à cet ancien Laurent. Merci beaucoup pour ce temps, pour cette interview. On a fait un beau tour de ton histoire, de votre histoire à toi et à ton épouse, et puis à toute cette histoire familiale d'entreprise aussi, et à toute cette histoire même bourguignonne à laquelle on a largement rendu hommage. Il me reste trois questions qui sont traditionnelles dans ce podcast. La première, c'est: est-ce que tu as un livre sur le vin à me recommander?
Alors, comme je te disais, j'ai pas eu beaucoup de temps pour penser à la question, mais oui, certainement, c'est un livre de Jackie Rigaud. Mm-hmm. Donc Jackie Rigaud, quelqu'un que j'aime beaucoup, qui est un de nos grands écrivains, peut-être notre grand écrivain, qui est également un grand universitaire bourguignon, qui s'intéresse à la fois à l'aspect terroir. Ça a été vraiment celui qui a théorisé ce qu'on appelle en Bourgogne la dégustation géosensorielle, qui est tellement importante et qui revient justement au fait de déguster au travers le vin le terroir et les caractéristiques du terroir. Et il s'est beaucoup intéressé aussi au millésime et au changement de millésime et à la succession des millésimes en Bourgogne, parce que on est une région en Bourgogne septentrionale. Comme je le disais tout à l'heure, on a un nombre de cépages qui est limité, essentiellement le chardonnay et le pinot noir. Et finalement, les deux variables que l'on a, c'est le terroir et c'est les millésimes. Et comme on est septentrionaux, la différence par rapport au Languedoc, par exemple, la différence des millésimes et d'une année sur l'autre, s'exprime un petit peu plus ici. Il y a plus de variations, il y a plus d'écarts. Il y en a peut-être un peu moins maintenant avec le réchauffement climatique que c'était le cas il y a 10, 15, 20 ans. Mais on a vraiment ces millésimes qui ont chacun une personnalité assez forte. Et Jackie Rigaud a écrit un livre qui s'appelle... Il y a eu plusieurs éditions, mais c'est 100 ans de millésimes en Bourgogne. Et on a travaillé, j'ai travaillé avec lui il y a 2 ans pour une réédition dans laquelle il a inclus un certain nombre des millésimes de la maison de Launay. C'est-à-dire que ce livre est très intéressant, je te le donnerai d'ailleurs parce que je l'ai, puisqu'en fait il décrit tous les millésimes selon les versions depuis 1893 ou 1900, selon les éditions, et en ramenant chaque millésime dans son contexte, à la fois des petits éléments géopolitiques, sociaux, quels étaient les grands événements qui se passaient à ce moment-là, les caractéristiques du millésime d'un point de vue climatique, etc., ce qui est extrêmement important, et puis finalement le style des vins, la qualité des vins du millésime en question, et en complétant pour chaque millésime, puisqu'il a eu la chance de pouvoir faire ça dans plusieurs maisons et plusieurs domaines, par 1, 2, 3 commentaires de dégustation sur des vins de l'année en question. Et donc ça, c'est un livre qui est extrêmement intéressant pour justement, c'est une référence en fait qu'il faut avoir dans sa bibliothèque, parce que si, pour ceux qui ont la chance un jour de pouvoir déguster un 59 ou un 71 ou quel que soit le millésime, ça permet de se replonger dedans puis dire quelles étaient les caractéristiques de cette année-là. Et ça, c'est quelque chose aussi qui me fascine un peu. Je disais justement que j'ai pu déguster avec lui. Ça fera le lien, je pense, avec la question d'après. On a fait une dégustation avec Jackie, on a dégusté peut-être une vingtaine de millésimes anciens de mon père, de mon grand-père et de mon arrière-grand-père, à l'époque justement où je relançais la maison Édouard Delaunay. Donc pour moi c'était une expérience absolument extraordinaire. J'ai la chance d'avoir dans ma cave quelques vieilles bouteilles qu'avaient gardées mon père, mon grand-père, mon arrière-grand-père. Et donc on en a ouvert un certain nombre, on est remonté à 1929. Et on les a toutes dégustées avec quelqu'un qui connaît parfaitement les millésimes en question. C'était une expérience absolument fascinante et il en a retenu 7 ou 8 qu'il a inclus dans ses commentaires de dégustation. Et ce qui me fascine justement, c'est encore une fois pour ceux qui ont la chance de pouvoir déguster quelques vieux millésimes. D'abord, les vins de Bourgogne et les pinots noirs en particulier vieillissent beaucoup mieux que ce qu'on peut croire. Parce qu'ils ont certes moins de tanins que les Bordeaux, par exemple, mais ils ont plus d'acidité. Et les deux facteurs de conservation, c'est le tanin et l'acidité. Donc ça vieillit beaucoup mieux qu'on peut croire. Nous, la chance aussi qu'on a, c'est que les vieilles bouteilles qu'on a sont restées dans la même cave, sans jamais voyager, etc. Elles n'ont jamais bougé, donc elles ont toujours été conservées dans de bonnes conditions. Et je suis toujours fasciné par ce côté capsule temporelle d'une vieille bouteille de vin. Quand on déguste un vieux millésime, ça projette dans une autre époque. On voyage dans le temps. Et c'est là où le livre de Jackie est très intéressant, c'est qu'il remet justement un peu des éléments de contexte historique, l'évolution de la société dans les années en question. Et finalement, une vieille bouteille de vin, c'est un cru, c'est un millésime, donc les conditions du millésime, les évolutions climatiques à cette époque-là, mais c'est aussi beaucoup des préoccupations du vigneron. Et c'est sûr que quand on déguste un 1939, on se dit les gens en septembre ou octobre 1939, ils avaient certainement beaucoup d'autres préoccupations à l'esprit que de faire le travail le meilleur possible à la cave. Et je trouve qu'il y a aucun autre produit finalement qu'on peut consommer. C'est presque une sorte de communion avec le temps passé, avec des personnes qui ont disparu depuis longtemps, qu'on peut consommer et qui a été produit il y a parfois 10, 20, 30, 50, 80 ans par des gens qui nous sont à la fois proches et puis à la fois très très éloignés. Donc ça, je trouve ça assez fascinant.
Ouais, je suis super d'accord. Je parlais de cet élément il y a pas très longtemps. Alors déjà, merci pour la recommandation de livre. Et évidemment, alors clairement, celui-ci, je l'ai clairement pas lu.
Je te le donnerai.
C'est super gentil. Et j'ai lu d'autres livres de Jacques Hérigo. Et c'est vrai que c'est un travail qui est absolument incroyable. Et on parlait avec Laure Gasparotto du monde de cette dimension temporelle de la dégustation de vin. Et c'est vrai que c'est un truc de fou. Alors, j'ai pas eu la chance de déguster des vieux millésimes énormément, peut-être que 3-4, mais enfin, rien de 1929, par exemple.
Est-ce que je peux te poser une question? Tu es né en quelle année?
Je suis né en 96.
Ah oui, ça j'en ai pas malheureusement.
Dommage, j'aurais dû tenter une autre année.
C'était pendant la période où on n'a pas produit de vin.
Ouais, j'aurais dû tenter une autre année, mais non mais enfin tu vois, j'ai pas eu l'occasion de déguster encore beaucoup de vieux millésimes. C'est normal, je pense que ça va venir et il faut laisser le temps, l'expérience. Et puis je pense que si j'en avais goûté dans les 3 dernières années, j'en aurais peut-être pas aussi profité autant que ce que je profiterais dans les 5 prochaines. Donc il faut prendre le temps et la patience aussi quand on est dégustateur. Mais c'est ultra intéressant et cette dimension ouais, temporelle, le fait de goûter une année, le fait de goûter la préoccupation du vigneron. En fait, ce que me disait alors, c'est elle me disait, tu vois, peut-être que le vigneron, je sais pas. En fait, on sacralise un peu parfois le fait de faire du vin, mais en fait, peut-être que le vigneron, à ce moment-là, je sais pas, il était malade ou je sais pas, il avait autre chose à faire, il venait d'acheter une maison,
il avait des problèmes avec sa femme ou il avait crevé le pneu de la voiture.
Il est passé à la cave, il a fait des trucs vite fait, tac, il est parti pour faire autre chose. Et en fait, c'est fascinant effectivement d'avoir la capacité de déguster une histoire et un temps. Et puis bon, toi qui es passionné d'histoire aussi, ça doit te mettre dans des situations qui sont intéressantes. Est-ce que tu as une dégustation coup de cœur récente justement?
C'est celle dont je viens de parler. C'est cette fameuse dégustation avec Jackie de ces millésimes de la maison, donc produits par les 3 générations qui m'ont précédé. Et exactement au moment où on relançait la maison Édouard Delaunay, donc pour moi ça a été l'occasion de me replonger justement dans ce qu'était la réalité, le style, les valeurs des personnes qui m'ont précédé à la maison Édouard Delaunay.
Ouais, ça devait être absolument sublime.
Ah, c'était formidable.
Et dernière question, qui est la prochaine personne que je devrais interviewer dans ce podcast?
Jacques Erigo.
Eh ben parfait. Je crois qu'on l'a déjà cité. Qui m'a déjà cité Jacques Erigo? Je crois que c'était Loïc Pasquet, non, qui a dû le
ah oui,
le citer.
Ah ou... oui, Loïc.
Ah non, c'était Yvan Massonard, pardon. Yvan Massonard.
Loïc
aussi,
Pasquet est un disciple de Jacques Erigo.
Ouais, il en fait partie clairement. Et ben c'est noté. D'ailleurs, je crois qu'il est pas très loin d'ici, donc on ira. C'est une bonne occasion pour nous
il
de revenir.
Il est à Gevrey-Chambertin.
Ben voilà, on pourra revenir en Bourgogne et l'interviewer. Laurent, merci beaucoup pour cette interview. C'était passionnant. J'ai appris plein de choses.
Ben, merci beaucoup à toi, Antoine. C'était très intéressant de partager tout ça aussi.
Et j'ai hâte de poursuivre la journée ensemble et de découvrir encore plus ce que tu fais ici. Donc
avec un grand plaisir.
Encore merci pour les personnes qui nous écoutent. Si vous êtes encore là, c'est que cet épisode vous a plu, évidemment. Donc partagez-le autour de vous. Envoyez-le à deux personnes. C'est un cousin et un pote avec qui vous voulez boire du vin et organiser une dégustation ensemble. De la maison Delaunay de préférence, comme ça vous ferez la boucle complète.
Je saurais dire mieux. Voilà une bonne idée.
Vous ferez la boucle complète. Mettez 5 étoiles à ce podcast, évidemment. Je vous retrouve dans 2 semaines, Laurent. Encore merci et à bientôt.
Merci Antoine.